VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 31 août 2016. En direct de Washington, Idrissa Sédoulia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Le suspense continue au Gabon. C'est maintenant aujourd'hui que l'on attend les résultats de la présidentielle de samedi dernier.
En République démocratique du Congo, condamnation à 3 ans de prison d'un proche du candidat à la présidence Moïse Katumbi à Lubumbashi.
Le groupe État islamique a annoncé la mort de son porte-parole et stratège, le Syrien Abu Mohamed al-Adnani.
Les États-Unis ont annoncé une cessation des hostilités entre leurs deux alliés turcs et kurdes impliqués dans des combats dans le nord de la Syrie.
Donald Trump, le candidat républicain à la présidence, se rend aujourd'hui au Mexique pour rencontrer le président Enrique Peña Nieto.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Les Gabonais attendaient hier les résultats de la présidentielle de samedi dernier et ils attendent toujours. Dans notre précédente édition, j'ai eu en direct de Libreville notre envoyé spécial Idriss Fall. Ma première question, que se passe-t-il?
Les membres de la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente, sont réunis en session plénière depuis cette nuit. Normalement, les débats contradictoires devaient commencer à 7h, après on nous a dit 8h, après on nous a dit 9h, et jusqu'au moment où je parle au petit matin, les discussions ont continué, et je viens d'appeler des confrères qui ont dormi sur place. On ne leur a même pas permis de franchir la barrière pour s'approcher de l'endroit où les discussions se tiennent. La seule note positive, c'est qu'aucun membre de l'opposition ni du parti au pouvoir n'est sorti de cette réunion qui a continué et qui risque de durer, m'a-t-on dit, toute la matinée. Et on ne peut même plus faire de projection de quand est-ce qu'on connaîtra les résultats qui seront toujours annoncés par le ministre de l'Intérieur. Peut-être que dans la journée ou d'ici 16 heures, me dit-on, on pourrait avoir des résultats.
Les dépêches datées de Libreville parlent d'une atmosphère tendue, forces de sécurité déployées au point stratégique de la capitale, les populations qui envahissent les supermarchés et épiceries pour faire des provisions. Qu'est-ce à dire?
L'ambiance est plutôt électrique, parce que les supermarchés ont ouvert jusqu'en début d'après-midi et très vite, nous-mêmes on a cherché à manger, tout était fermé, tout. Libreville s'est transformé en une ville fantôme, les rues sont devenues désertes, les forces de l'ordre sont visibles partout, particulièrement au bout du boulevard Triomphal, qui abrite beaucoup de ministères, le Parlement et l'Assemblée nationale. Le rond-point de la démocratie, qui a souvent été le théâtre de manifestations, était complètement bouclé, canon à eau, gilet pare-balles pour les soldats, armes réelles. Et vers M. Jean-Pierre, tout le boulevard périphérique, il y avait des militaires, soldats et policiers. Jean-Pierre avait pu, dans l'après-midi, rassembler ses militants, mais dans la soirée, après des appels de l'ONU, lui-même a lancé un appel au calme dans ses militants. Les gens ont peur, ils ont fait leurs provisions, les emplettes. Il y a même des gens qui ont envoyé leurs enfants hors de la capitale par crainte de ce qui va se passer après proclamation des résultats.
Merci Idriss, on vous retrouvera dans nos prochaines éditions. Alors Anne?
Oui, toujours concernant le Gabon, Idrissa, cette autre affaire en lien avec la présidentielle. Un conseiller du président ivoirien Alassane Ouattara a été renvoyé hier pour ingérence dans les affaires intérieures du Gabon. Des détails avec Bagassi Koura.
Il y a le ministre gabonais de la communication et porte-parole du candidat Ali Bongo Ondimba, Alain-Claude Billy Bizier, a dénoncé lors d'une conférence de presse l'ingérence de puissances étrangères et de certains pays africains dans le processus électoral gabonais. Le conseiller du président ivoirien Alassane Ouattara, Mamadi Diané, était visé. Il est accusé de soutenir et d'aider concrètement Jinping à l'insu du président Alassane Ouattara. Suite à la sortie de Billy Binze, la réaction n'a pas tardé du côté d'Abidjan. Dans un communiqué, la présidence ivoirienne, citant ses informations relatives à l'ingérence de Mamadi Diané dans le processus électoral de la République sœur du Gabon, a décidé de mettre fin à ses fonctions de conseiller spécial à la présidence Par le même communiqué, la présidence ivoirienne a condamné, je cite, cet acte d'ingérence et rassure les autorités et le peuple gabonais qu'elle tient au strict respect de la souveraineté de la République gabonaise. Par ailleurs, la présidence ivoirienne réaffirme sa ferme volonté de tout mettre en œuvre pour continuer à préserver les liens d'amitié et de fraternité qui ont toujours existé entre les deux pays.
Condamnation à 3 ans de prison d'un proche de Moïse Katumbi à Lubumbashi. Huit Molongo, ancien directeur de cabinet de l'opposant, a été reconnu coupable de détention illégale d'armes à feu, ce que démentent ses avocats qui qualifient le procès de politique. Eddie Sango.
C'est un verdict de la honte, a déclaré Maître Kasukula, un des avocats de Huit Molongo. Les condamnés détenaient bien l'autorisation des ports d'armes depuis 1996, selon l'avocat. Le major Ghislain Kabeya, président du tribunal militaire de Lubumbashi dans le sud-est du pays, indique que M. Molongo est condamné à 3 ans de prison ferme car un revolver a été retrouvé à son domicile. Mais pour l'avocat, les poursuites contre M. Molongo, arrêtées le 26 avril à Lubumbashi, sont liées plutôt à l'appartenance politique de M. Molongo, car son client avait claqué la porte de la majorité présidentielle en même temps que M. Moïse Katumbi. Messieurs Molongo et Katumbi, comme tous les opposants, accusent le président congolais Joseph Kabila de manœuvrer pour reporter la présidentielle. Monsieur Katumbi, parti pour des soins à l'étranger, a été inculpé pour recrutement de mercenaires et condamné à 3 ans pour spoliation immobilière. Les autorités entendent l'arrêter dès son retour dans le pays. La condamnation de M. Molongo intervient à la veille de l'ouverture du dialogue national qui boycotte une frange de l'opposition qui exige, entre autres, la libération des prisonniers politiques et la fin des poursuites contre deux opposants sous divers prétextes.
Plus de 800 migrants africains qui voulaient rejoindre l'Europe par la Libye et un groupe de passeurs ont été arrêtés au Soudan, près de la frontière libyenne, entre juin et août. C'est ce qu'ont indiqué hier des responsables des services de sécurité soudanais, les précisions de John Lyndon.
Au total, 816 migrants ont été arrêtés alors qu'ils tentaient d'entrer en Libye, un pays situé à 300 km des côtes européennes. Un groupe de passeurs a également été arrêté après des heures avec les forces de sécurité qui ont coûté la vie à 2 soldats et un officier près de la frontière libyenne. Djuma Fdi Mohamed, un passeur tchadien, a expliqué recevoir environ 986 euros pour chaque migrant qu'il a fait entrer en Libye. Le Soudan est un pays de transit clé, notamment pour les Érythréens fuyant leur pays vers l'Europe. Des milliers de migrants d'Afrique subsaharienne tentent chaque jour de rejoindre la Libye, d'où ils embarquent pour une dangereuse traversée vers l'Europe. Lundi, environ 6500 migrants ont été secourus au large de la Libye, un chiffre record selon les gardes-côtes italiens qui ont coordonné les opérations.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le groupe djihadiste État islamique a annoncé hier la mort de son porte-parole et stratège, le Syrien Abu Mohammed al-Adnani, tué dans la province d'Alep, dans le nord de la Syrie, une région ravagée par les combats, Jacques Aristide.
Abu Mohammed al-Adnani s'était illustré en exhortant les partisans du groupe État islamique à passer à l'action dans leur pays d'origine en utilisant n'importe quelle arme disponible, couteau, pierre ou véhicule, contre les citoyens des pays membres de la coalition anti-djihadiste, un appel qui aurait inspiré des attaques en Europe notamment. Il était le cerveau présumé des attentats qui ont fait 130 morts à Paris l'an dernier. De son vrai nom, Taha Soubi Falaha, Adnani était originaire de Binish, dans le nord de la Syrie. Il était âgé de 38 ans, un des membres influents du réseau djihadiste. Sa tête avait été mise à prix par le département d'État américain pour 5 millions de dollars à travers le programme Rewards for Justice. D'après un message du groupe État islamique relayé par son agence de propagande AMAC, Abu Mohammed al-Adnani a été tué alors qu'il inspectait les opérations militaires dans la province d'Alep, sans toutefois préciser la date de sa mort. La province d'Alep est le théâtre de violents combats entre différents acteurs de la guerre en Syrie, dont le régime de Bachar al-Assad, appuyé par les Russes, les rebelles, les combattants djihadistes, la coalition internationale dirigée par les États-Unis et plus récemment, les forces turques.
Les États-Unis ont affirmé avoir obtenu de leurs deux alliés, la Turquie et les milices kurdes impliquées dans des combats dans le nord de la Syrie, une cessation des hostilités. Mais Ankara n'a pas confirmé.
Donald Trump se rendra aujourd'hui au Mexique pour y rencontrer le président Enrique Peña Nieto. La nouvelle a été annoncée hier sur Twitter par les deux hommes. Le leader mexicain avait lancé l'invitation vendredi dernier à M. Trump et à sa rivale démocrate Hillary Clinton. Donald Trump doit prononcer ce soir un discours très attendu sur l'immigration clandestine, son cheval de bataille depuis son entrée en campagne l'an dernier. M. Trump dément envisager un adoucissement de ses propositions relatives aux quelques 11 millions de clandestins vivant aux États-Unis. Ce voyage éclair est une surprise totale. Donald Trump a promis de construire un mur à la frontière avec le Mexique et à en faire assumer le coût par les Mexicains. Il avait initialement accusé le Mexique d'envoyer ses pires éléments aux États-Unis, des criminels et des voleurs, selon lui. À noter que le dirigeant mexicain avait auparavant comparé le discours véhément de Donald Trump à ceux d'Adolf Hitler et de Benito Mussolini pendant leur ascension vers le pouvoir.
La Minute Éco, John Linden.
L'Ouganda a accordé des très attendus permis d'exploitation pétrolière aux groupes français Total et britannique Tullow. Ces permis concernent la partie ougandaise du bassin du lac Albert, dont le potentiel est estimé à environ 1,7 milliard de barils, a annoncé la ministre de l'Énergie, Irene Muluni. Le gouvernement ougandais espère gagner 1,5 milliard de dollars par an grâce à l'exploitation pétrolière. Les permis sont valables pour une durée initiale de 25 ans, avec la possibilité d'une extension de 5 ans. Tati arrive au Maroc avec l'ouverture d'un premier magasin prévu vendredi prochain dans la capitale économique. L'enseigne bien connue en France prendra ses bases au Morocco Mall de Casablanca. De nombreuses marques européennes, américaines et asiatiques sont présentes au Maroc, pays qui connaît une croissance de 1,4% au second trimestre 2016. La Côte d'Ivoire a besoin de 3 000 milliards de francs CFA pour financer son secteur privé. C'est ce qu'a annoncé Souleymane Diarra Souba, président de la Commission Finance du secteur privé de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Le capitaine de l'équipe de foot d'Angleterre prend sa retraite en 2018.
Wayne Rooney, attaquant de Manchester United et capitaine de l'équipe d'Angleterre, annonce qu'il prendra sa retraite internationale après le Mondial 2018 en Russie. Ma décision est prise. La Russie sera mon dernier tournoi. Je sais que la Russie sera ma dernière occasion de réussir quelque chose avec l'Angleterre, a déclaré Rooney, âgé de 30 ans, lors d'une conférence de presse à Burton, dans le centre de l'Angleterre, où la sélection anglaise prépare son premier match des qualifications pour ce mondial. Ce sera dimanche en Slovaquie.
FIFA, le camp Platini, exige que le tribunal arbitral du sport communique les motivations de sa décision.
Oui, les avocats de Michel Platini ont protesté auprès du tribunal arbitral du sport, à qui ils reprochent de ne pas leur avoir communiqué les motifs pour lesquels la suspension de l'ex-président de l'UEFA a été confirmée en mai dernier. Dans un courrier adressé au TASS lundi et consulté par l'agence France Presse, les avocats de Michel Platini demandent à obtenir la motivation de la sentence dans les meilleurs délais, estimant qu'il n'est pas admissible de ne pas l'avoir reçue plus de 3 mois après la décision du tribunal.
Angleterre transfère, Mustafi signe à Arsenal.
Oui, l'international allemand Skodran Mustafi, défenseur de Valence, a été transféré à Arsenal, a confirmé le club anglais mardi soir. Selon l'AFP, l'entraîneur Arsène Wenger avait déjà annoncé son arrivée il y a 3 jours, mais elle n'avait pas été confirmée par le site officiel du club jusqu'ici. La presse britannique estime à 41 millions d'euros l'indemnité de transfert versée pour Mustafi, âgé de 24 ans et champion du monde avec l'Allemagne en 2014.
Transfert toujours, Allemagne, Gnabry, Arsenal, vice-champion olympique, proche de Brême.
Oui, l'attaquant Serge Gnabry de Arsenal, vice-champion olympique avec l'Allemagne des moins de 23 ans, s'apprête à signer avec Brême, a annoncé ce mardi le directeur sportif du club allemand. Gnabry, âgé de 21 ans, a joué l'intégralité des 6 matchs de l'Allemagne au jeu, marquant 6 buts au total. À Arsenal, il n'a pas été utilisé en équipe première la saison dernière. Brême occupe seul la dernière place du championnat d'Allemagne après la gifle 6-0 infligée lors de la première journée par le Bayern Munich.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydoudia en votre compagnie. Maintenant, nos dossiers du jour. À la faveur de l'élection présidentielle gabonaise, revenons sur la situation politique du Gabon, notamment sur les présidents Bongo. D'abord, le père Omar Bongo Ondimba, qui a dirigé le Gabon depuis 1967 jusqu'à sa mort en 2009. Depuis, le pays est dirigé par son fils, qui était Omar Bongo. Des éléments de réponse avec Rodrigue Fénelon Massala, grand reporter à la revue Les Afriques.
Bon, écoutez, Omar Bongo, c'était une forte personnalité. C'était un patriarche sur le continent africain. Après les décès de Ofoed Boigny et Adema, Omar Bongo, et c'était celui qui était le doyen des chefs d'État africains. Mais c'était également pour les Gabonais un père, le père de la nation. Après Léon Ba, aux côtés de Léon Ba, parce que c'était le vice-président de Léon Ba.
Alors, Omar Bongo était très en vue, hein, notamment lors des rencontres des chefs d'État africains, comme par exemple les sommets de l'Union africaine.
Oui, il était très en vue parce qu'il était perçu comme le sage, comme le patriarche, comme le gardien du temple. C'était également cette personnalité qui, de l'OUA à l'Union africaine, était dans cette escarcelle qu'on appelait le syndicat des chefs d'État. Donc il savait à la fois également adober un nouveau chef d'État ou également créer les conditions de départ d'un chef d'État. Et donc c'était la personnalité qu'on ne bousculait pas.
Et il avait un certain franc-parler.
Oui, il avait un franc-parler vis-à-vis de ses interlocuteurs, mais vis-à-vis également de ses premiers partenaires, que sont les Français, comme il aimait le dire. La France sans le Gabon, c'est comme une voiture sans carburant. Le Gabon sans la France, c'est comme une voiture sans chauffeur. Donc pour lui, le Gabon et la France étaient liés.
Est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances de sa succession?
Oui, son fils ne lui a pas succédé de façon dynastique. À la mort de Omar Bongo, la constitution gabonaise s'est appliquée. Donc la présidente du Sénat, qui est le dauphin constitutionnel, a prêté serment et a géré la période transitoire pour organiser les élections libres et transparentes afin d'avoir un nouveau président.
Ali Bongo n'a pas su incarner le charisme de son papa.
Oui, ce n'est pas le même style.
Qu'est-ce qui oppose réellement Jean Ping, qui était un fidèle du père Bongo, au fils Ali Bongo? Qu'est-ce qui les oppose au fond, au-delà du folklore politique?
Sur le plan politique, je pense qu'il n'aborde pas les choses de la même manière. Mais le véritable problème de fond, il est à retrouver dans l'échec de l'élection de Jean Ping à la tête de l'Union africaine.
Rodrigue Fénelon Massala, grand reporter à la revue Les Afriques.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
En République démocratique du Congo, c'est le 1er septembre que le dialogue national démarre, mais les positions des partis semblent plutôt se durcir. L'opposition proche d'Étienne Tshisekedi appelle le peuple à se prendre en charge à partir de la date qui correspond au démarrage de ses assises qu'elle boycotte. Entre-temps, des voix s'élèvent pour dénoncer ce qu'elles appellent les tentatives de corruption lors des travaux préparatoires. Eddie Isango fait le point.
Des révélations de ce qui s'est passé dans les couloirs des travaux préparatoires du dialogue national viennent de certains participants. En témoigne cette déclaration de celui qui était jusque-là secrétaire général du parti des Vital Kamerhe, l'Union pour la Nation, suivant Bertrand Ewanga.
Les apartés dans les couloirs aux travaux préparatoires, on nous a promis des ministères. Moi, on m'a proposé d'être vice-premier ministre. On m'a même dit qu'il y a des enveloppes qui pourront être données dans les apartés. Mais les rituels de dire nous respectons la Constitution, nous, la résolution 22, mais c'est du bluff ça. Parce que nos amis nous ont dit, vous êtes venus ici pour nous aider à modifier la Constitution et puis le raïs continue. Ça a été dit clairement comme ça.
L'opposant a claqué la porte de son parti qui entend participer au dialogue. Il explique que tout est fait pour que le président Joseph Kabila reste au pouvoir et que le dialogue pourrait être de toutes les façons contourné avec un référendum constitutionnel si jamais une dynamique pour faire partir les présidents en place s'est dégagée de nouveau Bertin Ewanga.
La majorité a beaucoup de pièges dans ces dialogues. Ils ont le projet de référendum caché. Ils ont l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui est là. C'est-à-dire que les amis qui se retrouvent là-bas, s'ils osent s'opposer au schéma de la majorité, on va fermer cette histoire. Et ils diront, nous consultons le peuple. Je ne pouvais pas cautionner tout ça.
Les porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qualifie des gros mensonges les dires de l'opposant. Il l'accuse de vouloir plutôt se vendre auprès de Moïse Katumbi, les millionnaires candidats de l'opposition. Pendant ce temps, la frange de l'opposition, conduite par Étienne Tshisekedi, qui a recusé Edem Kodjo, appelle les Congolais à se prendre en charge dès le 1er septembre. La vie est de Franck Diongo.
Le message est clair. Des manifestations dans le sens d'exiger le respect du délai constitutionnel qui est bien entendu la ligne rouge à ne pas franchir. Donc l'alternance politique n'est pas négociable pour nous.
Cette frange de l'opposition tient à tout prix à ce que la présidentielle soit organisée avant le 29 décembre alors que la CENI et le gouvernement veulent négocier pour un prolongement.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Le Programme alimentaire mondial, la plus grande agence humanitaire de lutte contre la faim dans le monde, a des difficultés pour assurer son programme de repas scolaires. En cette période de rentrée des classes, c'est plus de 1,3 million d'enfants à travers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale qui pourraient ne pas bénéficier des repas scolaires offerts par le PAM. Pour en savoir plus, Arzouma Compaoré a joint la chargée de communication de l'Agence onusienne pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, Adèle Sarkozy.
Avec les cours reprenant cet automne, en septembre et en octobre, la région, il y a plus de 1,3 million d'enfants à travers la région qui risquent de ne pas bénéficier de ces repas scolaires cette année scolaire. Alors, il y a une réduction significative à cause de la diminution des ressources, aussi de l'évolution des priorités des donateurs. Et il y a en spécial 4 pays dans cette région. Il s'agit de Mali, Niger, Mauritanie et Cameroun, où plus d'un demi-million d'élèves ne pourront pas commencer d'avoir les repas scolaires quand l'école va ouvrir leurs portes le mois prochain. Les repas scolaires sont un bouée de secours pour les enfants. Très souvent, les seuls repas réguliers et nutritifs que les enfants reçoivent.
De quoi sont composés ces repas généralement que ces enfants ont à travers le programme?
Il s'agit d'un petit déjeuner et un déjeuner ou un déjeuner, alors un repas par jour ou deux repas par jour. Les repas scolaires, en fait, c'est aussi une manière d'aider la population locale, les agriculteurs, parce que le PAM achète ses produits locaux. Dans quelques pays comme le Burkina Faso, il s'agit de yaourt, par exemple. Et c'est une collaboration que le PAM a avec des éleveurs de vaches dans ce pays.
48 millions qui sont nécessaires pour pouvoir continuer à assurer les repas scolaires.
Exactement. Pour les 1,3 millions d'enfants dans les 15 pays qui sont affectés par la diminution des ressources.
Qu'est-ce qui est prévu au niveau du PAM pour faire face à cette situation?
Alors, nous travaillons étroitement avec le gouvernement. Il y a aussi des autres agences qui soutiennent le programme de repas scolaires. Il y a quelques pays dans la région où c'est le gouvernement, où il y a des autres agences qui sont les leaders des programmes de repas scolaires. On espère que les mois prochains, septembre et octobre, sont les mois critiques parce que les cours reprennent en septembre ou en octobre. Et on espère que pendant ces 2 mois, on va avoir l'appui ou une partie de l'appui que nous avons besoin et au fur et à mesure, même si on va recommencer ou continuer les repas scolaires un peu plus tard dans l'année, on va avoir quand même les ressources nécessaires pour le faire pendant la nouvelle année scolaire.
Adèle Sarkozy, chargée de communication du Programme alimentaire mondial pour les bureaux de l'Afrique centrale et de l'Ouest.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Présidentielle américaine 2016, c'est aujourd'hui que le candidat républicain Donald Trump doit prononcer le discours très attendu sur son projet de réforme de l'immigration. Pendant ce temps, la démocrate Hillary Clinton fait face à de nouvelles questions concernant l'utilisation d'un serveur privé pour ses emails du temps où elle était secrétaire d'État. Le point avec Timothée Donangmaï.
Le dossier de l'immigration illustre les différences de perspective entre Hillary Clinton et Donald Trump, à commencer par la question de savoir que faire des quelques 11 millions de sans-papiers vivant actuellement ici aux États-Unis. Donald Trump a laissé entendre que sa priorité sera de renvoyer tous ces étrangers chez eux. Hillary Clinton, elle, dit qu'elle expulsera en priorité les violents criminels parmi ces sans-papiers. Un décret signé par le président Obama permet aux parents dont les enfants sont citoyens américains ou résidents permanents et qui font face à une possible expulsion d'obtenir que la mesure soit différée. Un autre décret offre une protection temporaire similaire aux enfants arrivés illégalement ici aux États-Unis avant l'âge de 16 ans. Madame Clinton a promis de préserver les deux décrets. Donald Trump, lui, compte les supprimer et introduire de nouvelles mesures. Dans une interview l'année dernière sur la chaîne NBC, le candidat républicain avait dit qu'il veut supprimer le 14e amendement de la Constitution américaine qui accorde à tout enfant né aux États-Unis la nationalité américaine, même quand ses parents sont en situation irrégulière. Selon Donald Trump, cette disposition est, et je cite, « le plus puissant aimant pour l'immigration illégale ». En plus de cela, Donald Trump s'est engagé à ériger un mur le long des 3200 km de la frontière entre les États-Unis et le Mexique et à en faire assumer le coup par les Mexicains. Le discours qu'il prononcera aujourd'hui dans l'Arizona permettra de savoir s'il a assoupli ses positions sur toutes ces questions ou les maintient.
Et autre surprise, Tim, Donald Trump a annoncé hier soir qu'il se rendra aujourd'hui au Mexique pour y rencontrer le président Enrique Peña Nieto. À suivre donc. Dans le camp démocrate, de nouveaux rebondissements dans l'affaire des emails de Hillary Clinton quand elle était secrétaire d'État.
Judicial Watch, un groupe conservateur, a soumis 25 questions écrites à Mme Clinton sur cette affaire, conformément à une décision judiciaire. Ce groupe a déposé plusieurs plaintes pour demander l'accès aux documents gouvernementaux en rapport avec les emails de l'ancienne secrétaire d'État. L'ordre du juge Emmett Sullivan est une victoire partielle pour le groupe, dans la mesure où il n'est pas clair si Mme Clinton doit répondre sous serment aux 25 questions avant ou après la présidentielle de novembre. Judicial Watch soutient que la date limite est fixée au 29 septembre. On s'attend aussi à ce que le FBI, la police fédérale, publie son rapport d'enquête sur les courriels de Mme Clinton dans le cadre de la loi sur la liberté d'information.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Front row sailor in that little white church. I was singing about a baby laying in a manger. 8 years old. To this day, that's what you see. I've been daddy's little girl since my first cry. And it was hard turning 18, saying goodbye. You told me I was gonna take the world
Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Edressa Sedulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.